VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du lundi 26 août 2019. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, le futur gouvernement a été dévoilé 7 mois après l'investiture du nouveau président, Félix Tshisekedi.
Au Niger, une attaque de Boko Haram a fait 12 morts à Diffa.
L'aide aux pays du Sahel luttant contre les djihadistes a été discutée hier au sommet du G7 qui prend fin aujourd'hui en France.
La surprise à ce sommet a été la visite à Biarritz du ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif.
À Hong Kong, la police justifie son recours au canon à eau et à un tir de semonce par, je cite, la violence des manifestants.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En RDC, après sept mois d'attente, Félix Tshisekedi a finalement nommé son gouvernement ce lundi, un gouvernement de 66 personnes qui n'a laissé aucune ouverture à l'opposition. Des détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Enfin, le gouvernement est là, s'est exclamé le Premier ministre devant la presse. Il était 5h du matin ce lundi lorsqu'après 17 heures d'attente, Sylvestre Ilunga se présenta devant les journalistes convoqués depuis la veille pour expliquer comment et pourquoi les négociations ont été si longues et évoquer quelques chiffres. D'abord sur la représentativité des 26 provinces de la RDC, de 25% pour le Grand Kasaï à 6% pour la province orientale. Pour ce qui est du genre, le gouvernement Ilunga est composé à 83% d'hommes et à 17% des femmes. Un pourcentage encore faible, reconnaît-il, mais qu'il faut pondérer par l'importance des portefeuilles qui ont été attribués aux ministres femmes, souligne Sylvestre Ilunga. 76% des personnes nommées n'ont jamais travaillé dans un gouvernement, notamment une ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap, ainsi souligné le Premier ministre Sylvestre Ilunga. Pour ce qui est de la composition, on note le retour de quelques personnalités du Front commun pour le Congo, le cas d'Azarias Ouberoi, de Thomas Luaka ou encore de Steve Mbikai. Aucune personnalité de l'opposition ne fait partie de ce premier gouvernement de Félix Tshisekedi, le président de la République qui s'est par ailleurs partagé quelques ministères de souveraineté avec son prédécesseur et allié Joseph Kabila. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Niger, une attaque attribuée à Boko Haram a fait 12 morts à Diffa. Elle a eu lieu vendredi dans le village de Lamana, dans la commune de Keskerou, située près de la Komadougou, une rivière entre le Niger et le Nigeria. Les détails avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Selon plusieurs sources, les assaillants ont franchi la frontière entre les deux pays au niveau de la rivière de la Komadougou. Malgré sa crue en cette période, ils parviennent au village de Lamana à l'heure de la prière du soir, isolent des jeunes en majorité et tirent à bout portant sur eux. 11 décèdent sur le champ et des témoins disent avoir aperçu un 12e corps avec une gorge tranchée. Les autorités n'ont pas communiqué sur cette nouvelle attaque attribuée à Boko Haram dans la région de Diffa, qui, après une relative accalmie, renoue avec les assauts de la secte. Le dernier en date est celui du 10 août, où un véhicule de forces armées nigériennes a sauté sur une mine près de la ville de Bosso, occasionnant le décès de 2 militaires et les blessures de 5 autres. Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
La chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron ont lancé un appel hier au sommet du G7 à Biarritz pour élargir à d'autres pays et renforcer financièrement la coalition internationale aidant les pays du Sahel à lutter contre les groupes djihadistes. Les précisions d'Éric Manirakidza.
À l'issue d'une réunion du G7 consacrée à l'Afrique, Madame Merkel et Monsieur Macron ont exprimé la nécessité de changer d'échelle et de méthode, précisant que la situation ne cesse de se détériorer dans la région sahélienne. Les deux dirigeants ont annoncé la création d'un nouveau partenariat dont les modalités seront fixées lors d'une conférence franco-allemande d'ici la fin de l'année. L'Allemagne se sent très engagée à déclarer la chancelière. Cependant, l'initiative n'entraînera pas une augmentation du nombre de militaires allemands déployés dans la zone. Le président burkinabé Roch Marc-Christian Kabore, qui préside actuellement le G5 Sahel, a insisté sur la nécessité d'un appui massif en termes de développement. De son côté, Robin Guittard, porte-parole d'Oxfam, a regretté que la France et l'Allemagne n'aient pris aucun engagement nouveau pour lutter contre la pauvreté et les inégalités dans la région, ni même de mobiliser leurs partenaires du G7 malgré l'urgence. Seulement 1% de l'aide publique au développement des pays du G7 va au Sahel, selon l'ONG.
Au Soudan, les autorités ont décrété hier l'état d'urgence dans l'état de la mer Rouge dans l'est du pays. Elles ont aussi ordonné l'ouverture d'une enquête après des affrontements tribaux qui ont fait au moins 16 morts. Les heurts ont éclaté mercredi entre les tribus de Bani Amer et de Nouba à Port-Soudan, capitale de l'état de la mer Rouge. Selon la police, des forces ont été déployées pour contenir les violences. Les raisons de ces heurts ne sont pas connues.
L'Afrique du Sud a saisi un Airbus de la compagnie nationale Air Tanzania pour des impayés de 33 millions de dollars réclamés par un fermier dont les terres ont été nationalisées dans les années 80, a indiqué dimanche son avocat. L'appareil, qui effectuait un vol d'Dar es Salaam Johannesburg, a été saisi dès son atterrissage vendredi.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Coup de théâtre au G7 de Biarritz en France et sur le front du nucléaire iranien. Le chef de la diplomatie iranienne, Javad Zarif, a été reçu par des Européens dimanche en marge du sommet. Le président français Emmanuel Macron tentait de convaincre son homologue américain Donald Trump de jouer la désescalade avec Téhéran. De nouveau, Eric Manirakiza.
Javad Zarif a rencontré le président Macron et son homologue français Jean-Yves Le Drian, ainsi que des représentants de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne, signataires de l'accord sur le nucléaire iranien. Les discussions ont été positives, a déclaré la présidence française, précisant que M. Zarif était venu à Biarritz en accord avec les États-Unis et que M. Macron en avait informé Donald Trump. Le chef de la Maison-Blanche a annoncé la conclusion d'un accord commercial de principe entre Washington et Tokyo. Il a cependant exclu toute désescalade dans sa guerre commerciale avec la Chine, malgré les appels pressants des autres membres du G7. Sur un autre sujet qui fâche, le Brexit, Donald Trump a épaulé ostensiblement le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson dans le bras de fer qu'il oppose aux Européens sur le Brexit. Sur l'urgence du moment, les feux de forêt qui ravagent l'Amazonie, les pays du G7 sont d'accord pour aider le plus vite possible les pays qui sont frappés, a déclaré Emmanuel Macron. Les 7 dirigeants se sont aussi entendus pour renforcer le dialogue et la coordination sur les crises actuelles avec la Russie, tout en estimant qu'il était trop tôt pour réintégrer Moscou dans un G8, selon une source diplomatique. M. Macron, Trump et Johnson ont aussi débattu avec Angela Merkel, Shinzo Abe, Giuseppe Conte et Justin Trudeau de l'état de l'économie mondiale, qui montre des signes inquiétants d'essoufflement en Allemagne, en Chine et aux États-Unis et des moyens de la relancer.
À Hong Kong, la police a justifié aujourd'hui le recours pour la première fois à des canons à eau et au tir d'un coup de semonce à l'arme à feu la veille, après plus de 2 mois de contestation pro-démocratique. Elle a blâmé ce qu'elle a appelé des manifestants extrêmement violents. À la tombée de la nuit dimanche, un groupe d'officiers de police s'est retrouvé coincé par des manifestants armés, notamment de briques, et qui les menaçaient. Selon la police, un policier est tombé au sol sous une pluie de coups, incitant 6 de ses collègues à dégainer leur arme de poing et à tirer un coup de semonce en l'air.
Le chef du Hezbollah libanais Hassan Nasrallah a menacé hier Israël de représailles après une attaque au drone armé contre le fief à Beyrouth de son mouvement, qu'une guerre dévastatrice a opposée à l'État hébreu en 2006. Israël n'a pas confirmé cette attaque survenue avant l'aube dans la banlieue sud chiite de Beyrouth, mais l'État hébreu a annoncé avoir bombardé samedi soir des cibles en Syrie voisine pour empêcher, selon lui, une attaque iranienne de drones contre son territoire.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Tenke Fungurume, propriétaire de la société molybdène de Chine, qui exploite l'une des plus grandes mines de cuivre et de cobalt de la République démocratique du Congo, affirme avoir manqué à ses objectifs de production et opéré à perte. La mine blâme les prix glissants du cuivre et du cobalt ainsi que la lourde charge fiscale résultant du nouveau code minier de la RDC qui a augmenté le taux d'imposition du cobalt. La société incrimine également des pannes de courant, des problèmes d'équipement et une dégradation de la teneur du minerai. Tenke Fungurume Mining est détenue à 80% par Molybdène de Chine et à 20% par la GKMine, la société minière nationale du Congo. Le conseil d'administration de la Banque américaine d'import-export va voter dans 35 jours un prêt direct de 5 milliards de dollars pour le développement d'un projet de gaz naturel liquéfié au Mozambique. La transaction soutiendra les exportations américaines de biens et de services destinés à l'ingénierie, à la passation des marchés et à la construction de l'usine de gaz naturel liquéfié onshore et des installations situées dans la péninsule d'Afungi dans le nord du Mozambique.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatin. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec les coupes africaines des clubs, les matchs retour du tour préliminaire.
Oui, et en Ligue des Champions, battu à l'aller 3-2, les Ghanéens d'Asante Kotoko ont renversé les Nigériens de Kano Pillars score 2-0. Ils affronteront les Tunisiens de l'Étoile du Sahel, tombeurs des Guinéens d'Afia de Conakry. Le second représentant guinéen, le Oroya, s'est offert le stade malien 1-0 à domicile après le nul 1-1 du match aller. Les Togolais de l'ASCK, après le nul à Cotonou contre les Buffles du Bogou, ont fait l'essentiel à domicile 1-0 pour affronter les Congolais de la SV Club victorieux des Camerounais de l'USM de Lomé. Et puis, FC Mouadibou jouera au second tour le Wydad de Casablanca après avoir éliminé le champion de Côte d'Ivoire, la société Omnisport de l'armée.
Le champion burkinabé passe à la trappe au Nigeria.
Raimo FC, après sa coupe victoire 1-0 face à Enimba au match aller, a simplement coulé à Aba 5-0. Ça passe en revanche pour les Soudanais d'Al Hilal, de même pour les Kenyans de Komaya et des Angolais de Primero do Agosto. Et puis, grosse performance pour les Tchadiens de l'export qui passent un tour pour la première fois de leur histoire en battant les Gabonais d'Ao CMS. Prochaine étape, ce sera le tenant du titre, l'Espérant de Tunis. Qualification également des Égyptiens d'Al Ahly et de Zamalek, des Zambiens de Sesco United. Ça passe aussi pour les Tanzaniens de Simba qui ont eu raison des Mozambicains de Luis de Songo.
Le Raja terrasse Brikama United.
Dans un match à sens unique, les Aigles Verts ont confirmé leur statut de favori dans cette double confrontation. Tenus en échec à l'aller 3-3, ils ont simplement déroulé 4-0 au retour, d'où la satisfaction de leur entraîneur Patrice Carteron.
L'objectif atteint avec cette qualification, on sait que les tours préliminaires, c'est toujours par expérience un tour très difficile. On l'a vu lors des matchs allés avec beaucoup de surprises au niveau des grosses équipes où certaines ont été accrochées ou ont été battues. Pour la simple et bonne raison que ce tour arrive à un moment très difficile pour nous dans la saison puisqu'on est en pleine préparation. On n'est qu'à 6 semaines de préparation, donc on a mal négocié le match aller, mais je suis très satisfait de l'état d'esprit, de la qualité de jeu. On est en grand progrès et c'est un succès amplement mérité et une qualification amplement méritée sur ce match retour.
À l'instant, Patrice Cateron, l'entraîneur du Raja de Casablanca au micro d'Amin Birouk. Pour le reste, les Sénégalais de Génération Foot sont parvenus à renverser les Libériens de LPRC, tout comme les Algériens de la JS Kabylie qui se sont fait peur au Soudan contre El Merreikh. Enfin, la surprise du jour est venue de Soweto, où les Orlando Pirates ont été incapables de refaire leur retard de 1-0 devant les Zambiens de Green Eagle. L'Afrique du Sud se consolera tout de même avec la qualification de Mamelodi Sundowns qui a écarté les Congolais de l'Est au Togo.
Ça joue également en Coupe de la Confédération.
Oui, et bilan mitigé pour la RDC. Déjà vainqueur 2-0 à domicile à l'aller, le Daring Club Motéba Pembe a récidivé en s'imposant sur le même score au Cameroun contre le stade Renard de Melong. L'aventure s'arrête en revanche pour l'AS Manima Union, éliminé à domicile par les Gabonais de l'AS Pélican. Qualification des Tunisiens de l'US Ben Gerdan sur la pelouse des Sud-Soudanais d'Amarat United, tout comme les Togolais de Maranatha à Monrovia face aux Libériens de l'IS CR.
Sans surprise, les Béninois d'Essaé confirment et passent au tour suivant.
Le club universitaire, qui s'est déjà mis à l'abri à l'aller à Nouakchott contre Snim 5-0, a fait l'essentiel à Cotonou au match retour en l'emportant 2-0. La suite des qualifiés, on peut noter entre autres les Guinéens de Santoba, les Kenyans de Bandari, les Soudanais d'Al Khartoum, les Ghanéens d'Asanti Gold et les Algériens de l'AC Pardo et du CR Belouizdad.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, quatre organisations de la société civile ont publié pendant le week-end à N'Djamena un document intitulé « Rapport de mission d'enquête sur les conflits intercommunautaires ». C'est la conclusion d'enquêtes menées dans quatre provinces troublées. Les détails avec notre correspondant sur place, André Kodmajingar.
Selon le rapport rendu public par quatre ONG nationales de défense des droits de l'homme, près de 150 personnes ont perdu leur vie dans quatre provinces en moins de 2 ans. Il s'agit des villages situés dans les provinces du Mayo-Kébi ouest et de la Tangilé au sud et les provinces du Wadaï et du Sila dans l'est du pays. Des milliers de cases incendiées, des personnes déplacées, de nombreux champs détruits et des centres de santé fermés. Les blessés qui nécessitent des opérations chirurgicales se cachent par peur d'être arrêtés sur les lits d'hospitalisation. Pour le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, Maître Mida, c'est la gestion du terroir exploitée par des hommes politiques qui a causé tous ces drames.
Les règles de gestion du terroir sont déterminées par la loi. Mais quand je commence par dire à mon chef de village, si vous m'élisez, si je suis ministre, mon village va être le chef-lieu du gouvernorat. Ça va être le département. Mais vous croyez que les gens ne vont pas me suivre? C'est ça les discours que nous tenons dans les villages et qui accompagnent les gens vers la mort. Gouverner, c'est prévenir. Comment ces agents de sécurité de l'État ne pourraient pas être au courant que les gens se sont organisés pour s'affronter? Et c'est au dernier moment que nous sommes des mesures complètement en dehors de la logique juridique.
Le président Idriss Déby Itno reconnaît que ces conflits prennent une autre tournure qu'il faut combattre à tout prix.
Le conflit intercommunautaire aujourd'hui, c'est un phénomène qui est aussi quelque part irrigué à partir de N'Djamena par des hommes politiques. Donc c'est une guerre totale, je pense, que nous devrions engager contre ceux qui portent des armes illégalement et contre ceux qui sont à l'origine des morts d'hommes sur l'ensemble du territoire.
Témoignage de Nadji Doudé Azina, natif du village Colon, province de la Tangilé.
Les 4 et 5 juillet, des éléments de force sont allés et ont tiré à bout portant sur les gens. Ce n'est pas un conflit intercommunautaire, encore moins un conflit à l'échelle. C'est une tuerie organisée.
La justice de la dite province a été saisie pour situer les responsabilités. Mais Nadji Doudéri Azina dit n'avoir pas confiance en cette justice.
Au moment où nous avons 30 quelques personnes qui sont arrêtées comme ça. S'il y a bagarre, il y a 2 camps. Mais si on arrête les gens d'un camp et les autres camps sont en liberté, vous parlez de quelle justice? La justice divine. Peut-être pour le moment, on n'attend rien de la justice du Chakra.
Le ministre de la Justice, Dime Arabi, se veut rassurant.
Ces gens ont été transférés ici. Nous avons instruit le dessaisissement du tribunal de Kuala au profit de celui de N'Djamena pour que la responsabilité soit située dans cette affaire. Des gens qui ont été interpellés et transférés à N'Djamena, toutes les deux parties belligérantes font partie. Et c'est notre justice qui va juger ces faits-là. Il n'y aura pas d'autre justice qui va finir le faire à notre place.
André Kodmajingar, N'Djamena, VOA Afrique.
Au Cameroun, plus de 10 000 fonctionnaires fictifs ont été débusqués du fichier solde de l'État. C'est ce qu'affirme le ministère des Finances à la suite d'une opération de comptage physique lancée il y a plus d'un an, en avril 2018. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Le Cameroun n'a pas 400 000 fonctionnaires. Comment est-ce qu'on ne peut pas maîtriser l'effectif de la fonction publique?
Jean-Baptiste est un jeune employé du secteur privé à Yaoundé. Pour lui, les diverses opérations d'assainissement du fichier solde de l'État menées jusqu'ici ne sont que de la poudre aux yeux.
Chaque année, on nous parle toujours de l'épuration du fichier solde de l'État, mais on se retrouve toujours avec des fonctionnaires fictifs. Ça veut dire que le mal est au niveau du ministère des Finances. Le Cameroun a mis sur pied un système de suivi de la carrière des fonctionnaires.
Depuis 2005, le gouvernement a initié des opérations d'assainissement du fichier solde. 3 systèmes informatisés baptisés Antilope, CJPS 1 et CJPS 2 ont même été appliqués dans le but de maîtriser la masse salariale de l'État. Après une opération de comptage physique du personnel de l'État, c'est du système CJPS 2 que plus de 10 000 fonctionnaires fictifs ont été dénichés.
C'est un manque de volonté de la part de nos dirigeants.
Bernard est un fonctionnaire rencontré au centre administratif à Yaoundé.
C'est C'est un système qui engraisse une catégorie de personnes. Vous croyez véritablement que ces personnes qui ont jusqu'ici évolué dans ce système-là n'étaient pas soutenues par ce qu'on appelle au Cameroun les gros bras?
L'ONG Dynamique Citoyenne a réalisé des études sur le phénomène des agents fictifs qui émergent dans le budget de l'État. Son coordonnateur Jean-Marc Bikoko est aussi président confédéral de la centrale syndicale du secteur public.
Nous avons, par nos réseaux de suivi indépendants, décelé 46 000 agents fictifs. Preuve à l'appui, et le gouvernement n'a pas démenti. Pour ne pas être pris, ils ont décidé de ce que tous les salaires supérieurs à 100 000 francs devraient être perçus dans des banques. En retard, ils avaient déjà créé beaucoup d'établissements de microfinance. Ou d'autorité, ils viraient vos salaires, vous y alliez, sans que vous n'ayez quelque chose à dire. Quand aujourd'hui le ministre Mottazi arrive, son mérite, c'est d'être le premier à officialiser, même si le chiffre est réduit à la baisse.
Pour dénicher les fonctionnaires fictifs, le ministère des Finances opte à compter du mois d'août sur le paiement individualisé des salaires des fonctionnaires et des droits des pensionnés.
Chaque virement qui quitte le ministère des Finances va à la destination d'un bénéficiaire spécifique.
Sylvestre Mont, directeur général du Trésor.
Avant, on virait globalement à la banque. Nous avons la possibilité donc de pouvoir identifier les matricules fictifs. Sur les 410 000 matricules, nous avons pu valider 388.
Traduction, il y aurait à ce jour 22 000 faux numéros matricules. En juillet 2019, le ministre de la fonction publique a estimé à près de 260 000 le nombre de fonctionnaires et agents de l'État. Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
Le Bénin connaît une hausse du prix de l'essence de contrebande depuis bientôt une semaine. Selon notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur à Dandé, cela découle de la fermeture temporaire depuis le mardi 20 août du poste frontalier de Sémé-Kraké que se partagent le Bénin et le Nigeria.
Inquiétude dans le rang des Béninois depuis la fermeture temporaire de la frontière du Nigeria. L'opérateur économique Razaki Olufendi pense que le Nigeria doit avoir ses raisons de fermer de façon unilatérale ses frontières alors qu'il a adhéré à la zone de libre-échange.
Il doit avoir une raison, ça ne peut pas se prendre comme ça. Chaque année, c'est la tomate du Burkina Faso qui traverse le Ghana, le Togo, le Bénin qui va au Nigeria. Notre ananas aussi est très prisé au Nigeria. Si on fermait, imaginez donc le Burkina Faso et le Bénin auront du problème.
La fermeture de la frontière va arrêter le processus d'échange entre les opérateurs économiques et le marché nigérien. Les consommateurs béninois vivent de la production nigériane. À la frontière de Sémé-Kraké, quelques commerçants expriment déjà leurs inquiétudes. Amino Teiro est vendeuse.
Pour vendre maintenant, pour trouver 5 francs maintenant, c'est des problèmes. Si les clients viennent, ils achètent chez nous là. Le reste d'argent, ils viennent acheter dans nos boutiques. Maintenant, on ne les trouve même plus. Les gens qui nous doivent ne viennent plus.
Alfred Bada est un vendeur de téléphones et autres appareils électroménagers près de la frontière. Contrairement aux autres jours, il est juste venu vérifier si la situation a évolué.
Tant que la situation de l'autre côté ne va pas s'améliorer, sans être un oiseau de mauvaise augure, je dirais que le bout du tunnel n'est pas pour tout de suite. C'est une situation qui a des répercussions sociales énormes.
Outre la mévente chez les commerçants le long de la frontière, c'est la flambée du prix de l'essence de contrebande qui s'observe. Sans un communiqué officiel du gouvernement pour expliquer la situation, les spéculations vont bon train. Aminou est un conducteur de taximoto. Il pense que le gouvernement est à la base de cette situation.
Si l'État bannit l'essence flottée, de quoi vont vivre ces gens-là?
Voilà qu'il y a des jeunes diplômés comme vous et moi qui adaptent ça à la maintenant comme un métier.
Même rengaine au niveau de la population qui pense que l'État doit créer une mesure sociale avant de supprimer subtilement la vente de l'essence de contrebande.
Et où est la mesure sociale qu'ils ont mise en place pour nous permettre d'acheter l'essence à moindre coût afin d'éliminer l'essence par ailleurs? La bonne manière, s'ils veulent l'éradiquer, ils n'ont qu'à eux-mêmes là, subventionner l'essence.
Environ 20% du budget général du Bénin provient des recettes que la douane opère sur le commerce entre le Bénin et le Nigeria. Si cette situation doit perdurer, le budget de l'État va recevoir un coup fatal, pense le professeur John Higuier. Pour lui, la fermeture unilatérale de la frontière est une surprise quand on sait les relations qu'il y a entre les deux pays.
De tous les États qui entourent le Nigeria aujourd'hui, le pays qui a des relations extrêmement profondes avec le Nigeria sur le plan économique et des relations de voisinage, c'est le Bénin. De Lagos jusqu'à Cotonou, c'est un continuum d'habitat urbain. Un contexte comme ça, la frontière n'a pas de sens. Et quand on ferme cela comme ça, tel que ça s'est passé, ça crée beaucoup de problèmes à la fois aux Nigériens et aux Béninois.
Le Nigeria explique la situation par le désir de renforcer la sécurité par un exercice mobilisant les principales institutions garantes de la sécurité du Nigeria. Néanmoins, toutes les personnes qui le désirent peuvent entrer et sortir librement des frontières tant qu'elles ont des raisons légitimes d'y être et qu'elles disposent d'un passeport, a souligné un communiqué du service des douanes nigérianes. De Cotonou, Ginette Le Adandé pour VOA Afrique.
Au Togo, un nouveau groupe de volontaires américains du Corps de la paix ont été investis le 23 août dernier à Lomé. Ils vont pendant 2 ans s'évertuer à contribuer au développement de ce pays en intervenant dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'agriculture. Reportage de notre correspondante dans la capitale togolaise, Kay Lawson.
Inconye, Enye, Travis Harrington, Metro, Michigan, les America. Menye, Lolonudo, Wola, les Peace Corps.
Travis Harrington fait partie des 41 volontaires du Cœur de la paix à prêter serment à Lomé. Ces jeunes Américains, dont l'âge est compris entre 21 et 36 ans, vont servir dans des milieux ruraux au Togo afin non seulement d'apporter des solutions aux défis des communautés, mais aussi de forger leur personnalité.
Le travail, le Corps de la paix a fait, c'est très important pour moi. Moi, je veux augmenter mon niveau d'humilité. Je veux travailler avec les gens dans la communauté pour augmenter le niveau de l'anglais et sensibiliser à l'équité genre aussi.
C'est l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Togo qui a présidé la cérémonie de prestation de serment. Cet ancien volontaire du Corps de la paix a saisi l'occasion pour saluer le rôle des communautés dans la réussite de la mission des volontaires. Eric Stromae, l'ambassadeur des États-Unis au Togo.
En tant qu'ancien volontaire de l'accord de la paix, il faut dire que je suis jaloux des volontaires qui vont prendre leur opportunité de faire les 2 ans prochains. Les volontaires viennent d'achever plusieurs semaines de formation et sont impatients de travailler au sein de leurs communautés respectives. Le soutien de la communauté est un élément clé du succès des volontaires et nous sommes reconnaissants pour votre hospitalité et vos efforts qui leur permettent autant que possible de vivre une expérience enrichissante et en toute sécurité.
Cette volontaire qui va travailler dans le domaine agricole voit en ces 2 années de mission une opportunité d'échange de culture. Julian Dacierno, volontaire originaire de New York.
Je veux partager ma culture américaine avec les Togolais, mais aussi je veux apprendre beaucoup sur la culture togolaise. Dans mon village, il y a plusieurs langues locales, donc peut-être je vais apprendre le Kotokoli, peut-être Ewe. J'espère que je peux apprendre beaucoup de langues locales, mais j'ai déjà étudié le cabier.
Payamse Abigail, Melina, Kentucky, America.
Au Togo, la mission du Corps de la paix est concentrée dans 3 domaines principaux que sont la santé, l'éducation et l'agriculture. Victor Lubueski, représentant résident du Corps de la paix au Togo.
Nos volontaires assistent dans les cliniques santé rurales. Les infirmières assistent les femmes pour avoir une meilleure nourriture pour les enfants. Ils travaillent dans le secteur d'agriculture pour investiguer la manière d'améliorer la sécurité alimentaire et aussi dans l'école pour enseigner l'anglais. Et la plupart de leurs activités sont visées jeunes togolaises.
Les 41 volontaires de la promotion 2019-2021 interviendront dans la promotion de l'environnement agricole durable, dans l'enseignement de l'anglais pour le changement et dans l'éducation sanitaire et le renforcement du système de santé. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Apenami.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez télécharger et partager l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VO Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console Daryl Smith, merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction et Drissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.